Regardez voir. La photo sur France Inter.
Bonjour, j'espère que votre été se déroule bien avec vos rendez-vous sur France Inter. Cet après-midi, nous allons voguer entre photographie et cinéma avec deux invités. Raymond Cochetier fut photographe sur plusieurs films de la Nouvelle Vague, dont Jules et Jim de François Truffaut, À bout de souffle de Jean-Luc Godard, Adieu Philippines de Jacques Rosier. Entre 58 et 68, comme photographe de plateau, il travaille au Rolleiflex format carré. On a tous en tête cette photo de Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo sur les Champs-Élysées, Jeanne Moreau et ses deux amants courant sur le pont de Charenton. À cette époque-là, les photos de plateau n'intéressaient guère que la script en quête de raccord. Raymond Cochetier a aujourd'hui 98 ans et c'est avec modestie qu'il évoque pour nous cette partie de sa vie. J'ai aussi rencontré Peter Lindbergh, il est plus jeune, il est né en 44 en Pologne. On est près de la plage de Deauville, alors il évoque les lumières changeantes qui effleurent ses modèles. Ses modèles sont souvent des femmes, des mannequins, des actrices. En 88, il réunit six futures icônes de la mode sur une même photo en noir et blanc. Vous la voyez, elles sont en chemise blanche sur une plage. D'une manière générale, Peter Lindbergh bouscule les normes de la photographie de mode à une époque où on retouche exagérément les images. Jusqu'à 15h, ces deux photographes, Raymond Cochetier et Peter Lindbergh, vont vous dire un peu de leur vie dans la photographie avec cette phrase de Peter Lindbergh en bannière. Ce qui n'est que beau m'a toujours ennuyé. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est puissant et vrai.
Bah, il la remercie de l'avoir accompagné à la guerre.
Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi?
Bah non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça.
C'est... Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous que nous nous séparons pour la première fois?
Oui, mais enfin, c'est pas très long. Et puis, il part que 15 jours.
Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures? Puisque vous partez en voyage.
Puisque nous nous quittons ce soir. Mon cœur fait son apprentissage.
Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Marche avant côté du couloir.
Et pour les grands signaux d'usage, j'ai préparé mon grand mouchoir. Dans un instant, le train démarre.
Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare.
Me dire adieu là-bas avec votre bouquet.
Promettez-moi d'être bien sage. De penser à moi tous les jours.
Et retourner dans notre cage. Pour mieux attendre mon retour.
Eh bien voilà, vous avez une place tout à fait tranquille, sans voisine, sans vis-à-vis, personne pour vous déranger.
Bah, il espère que c'est un fumeur.
Oh, décidément, vous êtes incorrigible. Et moi qui pensais qu'un peu d'isolement vous aiderait à vous détendre.
Ah, et puis quoi encore? Oh là là.
Puisque vous partez en voyage.
Vous m'avez promis. Tous les matins ou davantage, pour que je voie votre visage.
Baissez la vitre, je vous prie.
C'est affreux, je perds tout courage.
Et moi je déteste Paris.
Le contrôleur crie en voiture. L'enfoiré, il sait pourtant bien
que je dois rester, mais je jure que s'il crie encore une fois, moi je viens.
J'ai mon amour pour ce bagage.
tout le reste, on s'en fout.
Puisque vous partez en voyage,
mon chéri, je pars avec vous.
Après Françoise Hardy et Jacques Dutronc, nous sommes avec Peter Lindbergh. Nous sommes tout près de la plage de Deauville et nous allons partir vers le sud pour d'autres plages que vous avez souvent photographiées.
Ah oui, j'ai une maison dans la réserve naturelle qui est vraiment, c'est magnifique là-bas. Ce n'est pas des grosses maisons blanches avec des colonnes, des photographes de mode dans des endroits comme ça, mais c'est un vieux mas très modeste, mais à un endroit, on se met sur le toit, on ne va pas à une autre maison, non?
Et vous avez fait aussi, et vous faites aussi, beaucoup de photos là-bas.
Oui, les plages là-bas sont magiques, parce qu'il y a un endroit avec, je sais pas, des milliers d'hectares, les salins de Midi, qui sont le propriétaire des salins là-bas, et on n'a pas accès. On a une carte et on rentre dans une porte. Ça veut dire qu'on a 30 km ou 40 km de plages et des salins, sans aucune personne, même en mois d'août. Et ça, c'est magnifique. C'est incroyable. On ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'est d'aller là-bas. On a passé la porte et on conduit 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes sur des petites digues pour arriver à la mer et entouré par de flamants roses de partout. C'est incroyable. Et il n'y a personne.
Peter Lindbergh, qui vous a appris la photographie?
Bah, moi, je crois qu'on ne peut pas apprendre la photographie. Non, on peut sentir éventuellement un besoin de s'exprimer et on trouve la photographie ou autre chose, non, ou la peinture ou n'importe quoi. Moi, c'était d'abord la peinture. Comme j'ai travaillé comme artiste un, deux, trois ans et ça marchait très, 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 très bien. Et après, d'un coup, concept artistes qui sont venus de l'États-Unis. Avec leur intelligence, ils ont tous écrasé ce que nous, on a appris. Et je me sentais vraiment comme une petite provinciale avec ce qu'on a fait ici. Et j'ai dit, là, il faut que j'arrête pour réfléchir ce que je dois faire. C'était une telle information, c'était magnifique. D'un coup, ça existait et on se trouve vieux et vraiment nul.
Et donc, vous vous êtes dit, je vais prendre un appareil photo, non?
Non, pas du tout. Non, j'ai dit, je vais faire un break de un an où je fais rien du tout. Et après, 8 mois à peu près, il y a un ami à moi, il m'a dit, mais tu traînes, tu vas pas, tu traînes. J'ai une amie qui cherche un assistant, qui est photographe. Et moi, j'ai dit, je traîne pas, j'ai réfléchi. Et j'ai dit, bon, mais ça m'intéressait quand même, non? Donc, je suis allé et il m'a pris et je savais rien du tout. Je sais pas comment quelqu'un peut prendre un assistant qui connaît rien. Il était sympa, il m'a pris, il était très généreux avec, il me laissait faire beaucoup de choses et dans un an et demi, je pensais maintenant je sais tout faire et j'ai ouvert mon petit studio à Düsseldorf.
Avez-vous dans les photographes contemporains qui travaillent dans la mode ou ailleurs des gens que vous aimez beaucoup, dont vous appréciez beaucoup le travail?
Ah oui, parce que ça surtout c'est le genre de ma génération, parce que je connais pas beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a beaucoup de photographes qui, à un moment, qu'ils étaient très bien, mais qui se perdent sur le temps, non? 10 ans plus tard, ils sont très forts dans leur temps. Tout le monde le connaît, ils sont des stars, t'as un peu le Vogue, enfin, la série et tout ça. Mais 10 ans plus tard, on ne les connaît plus. Les gens qui restent, hein, c'est toujours chaque génération de peut-être 2 ou 3. Et c'est des gens qui ont inventé quelque chose. À un moment, ils ont changé quelque chose, non? Et ça fait rentrer dans l'histoire. S'il n'y a pas une chose inventée, originale, qui représente aussi une avance dans tout ce qui est fait dans ces moments-là, bah, ça reste pas.
Qu'est-ce qui fait que vous continuez à travailler et qu'on reconnaît vos photos, votre signature, Peter Lindbergh?
C'est très facile à répondre parce que le peu de photographes qu'on est, Penn, Avedon, Steichenavant et des choses comme ça, chacun a une inspiration ou un monde à lui et travaille de là. Et on regarde à l'intérieur au lieu de l'extérieur. Là, on peut continuer sans limite, non? Parce que l'intérieur, c'est le réservoir qu'on a pris, qui est dans un artiste. C'est sans limite. Ça, c'est un côté. On appelle ça en Allemagne, très joli mot, c'est les Seher, les gens qui voient, non? Et l'autre, c'est les gens qui sont créatifs, qui sont bien, qui regardent de l'extérieur et qui sautent sur un style ou sur un mouvement ou ça et ça et ça. Et comme l'inspiration vient d'extérieur, mais à un moment ça s'arrête, hein, parce qu'on regarde et l'extérieur change et ils ne savent plus quoi faire. Ils se perdent parce qu'ils n'ont pas une chose originale qui va rester et qui reste originale. Parce qu'une fois on est original, on pense toujours original et on commence toujours au même endroit. Et de là, on peut aller partout. Non et mais si on n'a pas cet endroit, ben on est très vite perdu.
J'ai lu que vous faisiez, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, de la méditation.
Ah oui, très actuel.
Ouais. C'est très actuel. Et donc là, vous venez de me dire que ce qui vient de l'intérieur, c'est le plus important. Est-ce que le fait de faire de la méditation joue dans votre travail? J'imagine que oui. Vous allez peut-être me dire non.
Non, au contraire. C'est, à mon avis, ça c'était 90% de ce que s'est passé. C'est passé grâce à ça. Parce que justement, ce qu'on apprend avec ça, c'est pas du tout compliqué d'ailleurs. Les gens, ils pensent toujours, il faut mettre l'encens partout, mettre un tsari, croiser les jambes, et après un peu plus lever parce que les genoux sont morts. Pas du tout. On se met où on veut, tout tranquille, et on peut faire ça très très facile. Et ce qui passe, c'est un petit voyage à l'intérieur, non? Et peu à peu, si on fait ça, moi je fais 40 ans maintenant, si on fait ça, on se connaît mieux, non? On commence à se connaître, non? Ou on se donne 2 fois 20 minutes par jour, c'est pas beaucoup, pour un petit voyage à l'intérieur. Et d'un coup, on n'est plus un étranger avec soi-même, non?
Peter Lindberg, est-ce que vous avez besoin d'aimer ceux que vous photographiez? Par exemple, je pense à cette photo absolument incroyable de Jeanne Moreau, qui est âgée, qui se présente à vous d'une façon incroyable. Et je me dis, pour qu'elle accepte ce portrait que vous avez fait, pour que vous acceptiez, vous, de la photographier et que la photo soit publiée, il faut bien qu'il se passe quelque chose entre vous et votre modèle.
Ah oui, c'est facile. Moi, j'étais amoureux de Jeanne. Je l'ai trouvé tellement magnifique comme personnage. J'ai fait un film, d'ailleurs, fait avec les photos, qui s'appelle « Everywhere at Once », où je l'ai demandé de donner sa voix, donc elle raconte tout le film. Non?
For Christmas, he buys me toys that he himself wishes to play with. Balls, bats, and a large copper tool chest. It is shiny. I am sorry also. But when I open it, there are rows and rows of necklaces and tiaras among the hammers and nails. They begin to wiggle, sparkly little worms. Really, I'm not sorry. Son nom oublié, de son corps, de mon corps, de cet amour-là, de cet amour mort.
Ah, c'était un personnage magnifique et une très très bonne histoire avec cette photo qui les gens les trouvent extrêmement brutale. Je ne comprenais pas. Et donc, à l'époque, ça fait maintenant 15 ans peut-être, j'ai voulu mettre cette photo sur la couverture. Non? Et j'ai montré ça à mon éditeur, qui a dit, je te respecte Peter, mais si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais moi, c'est pas ce que j'imagine sur une couverture de bouquin. Il pense que ça va pas vendre. Et moi, je me suis fait pas un bouquin pour gagner l'argent, j'ai fait un bouquin pour montrer ce que j'ai fait. Donc, je suis allé chez Jean. C'était là le moment où on a traversé le film pendant quelques mois. Allez, comme j'ai dit Jean, ça veut dire Jeanne, non? Et elle met la main sur la mienne et parle, et la voix et tout ça, mais c'est émotionnant quand j'ai dit ça, mais non. Et j'ai dit, Jeanne, j'ai une idée, je vais faire une photo que nous on a fait ensemble sur ma couverture de bouquin. Elle a dit, oh, je suis très honoré, Peter. Non, moi je dis, non. Moi je suis honoré. Mais je te montre la photo. Et il y a une chose avec cette photo, je peux pas le retoucher. C'est une photo, on peut pas retoucher, non? Faut que le laisser comme c'est. C'était vraiment brut. Et je sors la photo, et je le montre à elle, c'est la marche, maintenant vous n'avez pas cette photo devant vous. Et j'ai montré la photo, et elle me regarde, elle m'a dit, mais mon Peter, mais tu veux retoucher quoi? Non, c'est pas beau, ça. Alors, mais vraiment, et ça, au milieu de la hystérie de Photoshop et des choses comme ça, ça, c'était vraiment une petite vent d'air frais, faut le dire.
Est-il utile de vous le présenter, India Song, Jeanne Moreau? Vous êtes bien sur France Inter. Cet après-midi, dans Regardez voir, mon invité s'appelle, auriez-vous oublié, Peter Lindbergh.
Regardez voir, une émission de Brigitte Patient.
On vous dit toujours de bonne humeur, qu'est-ce qui vous met vraiment en colère? On dit que vous êtes gentil, que vous êtes adorable, vous avez une réputation d'un homme absolument sympathique. Est-ce que quelquefois, dans le travail, il y a un truc qui vraiment peut vous mettre hors de vous?
Non. Et la raison est facile, la raison est simple, parce que les choses qui sont pas bien pendant le travail, ils viennent pas de nulle part, non? Ils viennent parce qu'on n'a pas fait attention. Moi, j'ai fait très attention à tout. Le matin, on rentre dans le studio, ou dans le désert, il y a 40 personnes, et moi, j'ai une septième sens, on dit ça? Pour quelqu'un qui est pas content. Et je le sens, là, derrière, c'est un chauffeur de bus. Et Je lui tape sur l'épaule, je dis, mais écoute, ça va, c'est un peu tôt, non? Une chose comme ça. Et j'enlève complètement l'idée que nous sommes les grands photographes de mode, et avec des super mannequins et l'actrice, et nous, c'est un petit chauffeur de bus qui doit faire la gueule parce que, elle a raté sa vie, quoi. Et ça, c'est constamment, je vois des choses comme ça. Et pour ça, normalement, je passe 5 minutes avec lui et on part comme les meilleurs copains.
Peter Lindbergh, parlez-moi d'une photo qui est accrochée chez vous. Alors, que ce soit à New York, à Paris, dans l'une de vos maisons, une photo importante.
Moi, je fais pas très attention à ce qui est accroché chez moi, parce que dans ma cuisine, il y a une grande photo de Marie-Sophie Wilson dans une série de cabarets où elle est nue, et une autre photo de Lynn Custer dans une usine à côté de chez moi, en Allemagne, pour Comme des garçons. Non, ça, c'est très impressionnant. Et ils sont grands parce que, comme j'ai eu cet appartement, ça fait genre 25 ou 30 ans, et j'ai fait une exposition à la Vieille Charité de Marseille. Et ça, c'était la première exposition un peu muséale que j'ai eue. Et comme l'exposition était finie, les photos sont venues. Et là, maintenant, on a une storage énorme, on a tout ça, mais avant, j'ai rien du tout. Et l'appartement était vide. Et j'ai plus ou moins pris cette exposition et j'ai mis sur le mur, chez moi. Et ça finit Naomi, à photo de Deauville de Naomi, avec les bijoux, le nu. Il est au-dessus de mon lit, à 2,40 m par 1,80 m, non? Et à côté, dans notre mur, c'est des petits escaliers qui montent en haut sur le bureau de Eiffel. C'est un petit bureau, lui, qui s'est réservé dans la tour Eiffel. Et cet escalier qui est magnifique, un petit escalier en fer. Et des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment une grande réflexion. Et ça, c'est vieux maintenant. Ça traîne là-bas depuis 30 ans, non? Et j'ai aucune initiative de changer ça, non?
Peter Lindbergh, une dernière question. Vous avez plutôt photographié, en règle générale, depuis le début de votre carrière, des femmes. Peu d'hommes, on est d'accord.
Ouais.
Bon. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la femme? Dans le corps, le visage, la peau, le grain de peau, le sourire, les cheveux, la personnalité?
Pas le sourire, parce que le sourire dans les photos, je trouve que c'est une forme s'exprimer très écrasante pour toutes les autres possibilités de sentiments et de sensibilité. Si on rit, c'est fort comme expression, non? Donc ça reste plus rien d'autre. Et sinon, on peut montrer 5, 6, 7 émotions dans le même temps. Ça, c'est très, très beau de faire ça. Et il y a aussi une chose, les hommes vont dire, oh, c'est magnifique comme tu as photographié cette ou cette personne. C'est vraiment eux. C'est vraiment elle ou c'est vraiment lui. Et ça, c'est absolument ridicule parce qu'on peut pas photographier une photo qui exprime une personne complètement dans la complexité. On peut montrer un moment d'une personne. Et cet moment, ça se crée entre le modèle, si on veut, ou l'actrice, ou la personne, et le photographe. Et ça se crée dans un espace entre les deux. Non, et ça, c'est quelque chose, il faut le mettre en place, et ça donne confiance, plein de choses. Et pour remplir cet espace entre les deux personnes. Et c'est ça ce qu'on voit. On voit la relation de ces deux personnes dans ces moments. Et on ne voit pas la complexité d'une personne dans une photo.
C'est ce que vous racontiez tout à l'heure à propos de Jeanne Moreau.
Ah oui.
Et c'est ce qui permet aussi aux spectateurs de retrouver votre identité à vous, Peter Lindbergh, dans les photographies. Ça, c'est important aussi.
Oui, c'est ça. Ce que
vous-même, vous vous retrouviez.
C'est ça ce que je cherche. Et là, le dernier calendrier Pirelli, j'ai fait avec 14 actrices. À mon avis, les 14 plus intéressants sur la Terre. Robin Wright, Penelope Cruz, Léa Seydoux, Charlotte Rampling. Et eux tous, ils étaient interviewés par Pirelli après, sur le shooting, parce que le shooting, c'était une proteste contre l'idée de beauté aujourd'hui qui est complètement transformée par des idées commerciales ou pas, des idées horribles. Je trouve les photoshops que ça fait aux femmes aujourd'hui, mais c'est terrible, on ne se rendait pas compte. Non, toutes les femmes se trouvent comme des patates, comme ils voient les choses, les mannequins qu'ils ont stretchés, retouchés, transformés. Et j'ai voulu faire, avec cette 14 actrices, j'ai voulu faire montrer une beauté qui est vraiment différente, une beauté qui existe toujours. Ils étaient tous d'accord, donc on a fait pratiquement pas de retouches. Il fait pas ça avec moi, mais j'ai vu ça, quelqu'un montre une photo, et les gens qui sont là disent, il faut stretcher les jambes un tout petit peu, vous croyez pas les yeux sont un tout petit peu trop serrés. Mais c'est horrible. C'est quoi comme société, là? Si dans 200 ans, les gens, ils regardent notre, début de troisième, à partir de 2000 ou même avant, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'est quoi ces robots, non? Et on enlève tout. On enlève tout. On enlève l'expérience. On enlève tout. Et tout le monde est content parce que c'est parfait, non?
En tout cas, là, nous, tous les deux, nous sommes bien vieux, donc, hein.
Ah oui, j'ai commencé avec ça, j'ai fait pour à peu près 3-4 ans, j'ai fait revoir tout le mannequin de l'époque, Cindy Crawford, Tatiana Patitz, Helena Christensen, tout le monde à New York, réunis, ils étaient tous 50 ans, et j'ai dit voilà, on est là pour une raison, parce que le monde est devenu fou, et maintenant on va montrer la beauté de femmes qui sont 40 ans, non, ou 50 ans. Et on a fait une merveilleuse série qui a fait un grand... C'était un grand impact et ça coupait un peu la discussion de bon, 40 ans, il faut faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui viennent de là qu'on ne contrôle plus après. Là, les gens, ils vont tous courir chez les docteurs qui mettent deux grosses coussins dans le comment on appelle ça là?
Dans les pommettes.
Deux gros trucs dans les pommettes, la bouche, oh là là, la bouche. Vous avez la taille 1, 2, 3, 4, ah, je prends 4, non? Donc les gens, ils ont tous la même tête d'un coup. La grosse pommette, la grosse bouche, et peau parfait. Et... Oh non, c'est triste. Hein.
Je voulais juste conclure sur une note positive, mais en fait, ce que vous décrivez, c'est super triste.
Non, parce qu'il y a aussi de l'autre côté. Il faut le battre, il faut s'engager. C'est ça, la chose. Qu'un photographe qui s'engage pas parce qu'il n'a pas une vision personnelle, qui fait seulement, ah, mais non, ils sont tous stretchés, on va stretcher aussi. Ben, c'est quoi, ça, faire un photographe, non?
Donc c'est ce que vous faites. Merci beaucoup, ouais, Peter Lindberg.
Merci beaucoup, c'était très bien, merci.
dans la playlist de l'été L'Impératrice. Voulez-vous me suivre? Ma rencontre avec Raymond Cochetier a lieu à Vannes Photo Festival où ses photos étaient exposées. Pendant longtemps, nous n'avons pas eu accès à ces photographies-là, des films de la Nouvelle Vague. Aujourd'hui, on peut les admirer. Raymond Cochetier les appelle ses photos de travail.
Regardez voir. La photo sur France Inter.
Raymond Cochetier, on va parler de photographie, mais tout de même, comme je sais que vous avez fait de la radio, j'aimerais bien que vous me disiez quand est-ce que vous avez fait de la radio et à quelle occasion.
C'était en Indochine où j'étais militaire et pas du tout photographe, que j'ai rencontré Jacques Chancel qui m'a demandé de participer à ces émissions de Radio France Asie, ce que j'ai fait avec plaisir mais sans aucune compétence. Et petit à petit, je me suis habitué au micro, mais sans arriver à le maîtriser complètement. Vous en avez la preuve aujourd'hui.
Comment est arrivé dans votre longue vie, hein, puisque vous avez 98 ans, comment est arrivée la photographie?
On m'a obligé. J'étais dans l'armée de l'air et je n'avais aucune compétence photographique. Et j'étais néanmoins chargé du service de presse de Saïgon, de l'armée de l'air à Saïgon. Et le général m'a dit, on a besoin d'un photographe, mais comme on n'a pas les moyens d'en avoir un, débrouillez-vous tout seul et achetez un Rolleiflex et puis essayez de faire pour le mieux. C'est ce que j'ai fait et on m'a pardonné.
Mais il s'agissait pour vous, à ce moment-là, de photographier quoi?
De photographier les activités du personnel de l'armée de l'air. Mais à partir du moment où j'avais un appareil, je me suis intéressé aussi à la vie des populations locales, aux habitants de la Ryo chinoise, de la ville de Saïgon, et ça m'a tellement plu que j'ai continué. Alors donc, j'ai fait beaucoup de photos et elles s'entassent dans mes tiroirs. Et beaucoup sont inconnues d'ailleurs. Enfin, n'intéressent pas le public et... Peut-être que ce jour viendra un jour où elles reviendront à la surface.
Qui s'occupe alors justement de ces photos qui s'entassent dans les tiroirs, Raymond Cochetier?
Il y a des dizaines de milliers parce que j'ai touché un peu à tout et avec un bonheur pas tout à fait permanent. Mais sur des témoignages, la photo est en général un témoignage beaucoup plus qu'une œuvre d'art. Et dans cette optique, beaucoup de mes photos sont devenues beaucoup plus intéressantes maintenant qu'à l'époque où je les ai prises. Parce qu'elles sont le reflet d'un moment, d'un endroit, d'une époque, et ça devient de plus en plus rare, finalement.
Est-ce que c'est grâce à votre épouse qui est là, et qui nous surveille, et qui s'appelle...
Kaolu, qui est japonaise. Mais elle a assimilé le français avec une vitesse déconcertante, et sans elle, je n'existerais pas.
Donc, est-ce que c'est grâce à Kaolu que nous avons le plaisir de redécouvrir ou de découvrir toutes les photos que vous avez sur les tournages de la Nouvelle Vague? Est-ce que c'est grâce à elle ou à un autre événement?
Non, parce que les photos de travail, comme on dit, sont des choses qu'on jette à la corbeille parce que ça n'a aucune importance. Et c'est vrai, sauf que 50 ans après, ils deviennent des témoignages extrêmement précieux d'une époque disparue. Des méthodes de travail, des gens, et à bout de souffle, je l'ai dit maintenant, peuvent reprendre vie un peu grâce aux photos que j'ai et que Kaolu a classées et sauvées, parce qu'autrement, elle sera à la corbeille depuis longtemps, donc elle est la mémoire vivante du cinéma.
Catherine n'est pas spécialement belle, ni intelligente, ni sincère, mais c'est une vraie femme. Et c'est cette femme que nous aimons.
Vous êtes deux idiots.
Moi aussi, je suis allée dire adieu à mes amours. Tu vas me tenir dans tes bras toute la nuit, mais pas plus.
Jim, aimez-la, et poussez-la, et laissez-moi la voir.
Et on restera toujours ensemble, tous les deux. Comme des petits vieux.
Raymond Cochetier, comment un jour vous êtes arrivé pour être photographe de plateau sur un tournage? C'était sur le film...
C'est le contraire, c'est-à-dire que je suis arrivé au cinéma après une carrière dans l'armée de l'air en Extrême-Orient, où j'ai vécu des moments passionnants, découvert des peuples extraordinaires, les Vietnamiens, les Cambodgiens, et donc ça m'a beaucoup marqué, et j'ai voulu, par l'image, garder le souvenir de ces gens, de ces instants, de leur travail, de leur culture, et ça, maintenant ça commence à devenir, avec le temps, des témoignages presque historiques. Alors le cinéma est venu, c'est lui qui est venu en Indochine, sous la forme de Marcel Camus, qui était un réalisateur chargé de faire un film au Cambodge et qui n'avait pas de photographe, ou du moins qui n'avait pas les moyens d'en faire venir un de France. Donc il a trouvé plus que bon de faire appel à moi qui était sur place, et donc il n'avait pas besoin de payer le voyage. Donc c'est pour faire des économies de production que je suis arrivé à la photographie.
Donc ça c'est pour le film Mort en fraude.
Mort en fraude, oui.
Et ensuite, vous êtes, j'imagine, revenu en France.
Alors après, mes photos ont été remarquées, on m'a demandé d'en faire d'autres. Et c'est la nouvelle vague qui est survenue. Les producteurs de Godard, de Truffaut, etc., m'ont demandé de... Mais aussi parce qu'on payait les... Ceux qui revenaient d'Indochine, on pouvait se permettre de les payer beaucoup moins cher que les autres, parce qu'ils étaient en chômage pour la plupart. Et c'est pour ça que j'ai été choisi, peut-être parce que j'étais pas moins cher que les photographes locaux.
Quelle était la place à ce moment-là d'un photographe de plateau?
Aucune place. Il fallait surtout pas qu'on le voie, parce que si on le voyait, il dérangeait tout le monde et on le mettait à la porte.
S'agissait-il pour vous de faire des photos pendant les prises ou juste après les prises, d'aller ailleurs avec les comédiens? Par exemple, cette photo de Belmondo avec Jean Seberg sur les Champs-Élysées, est-ce que c'était pendant une prise?
Oui, mais c'est pas une photo de film, on la retrouve nulle part. Mais ça me semblait être symbolique. Les Champs-Élysées, symbole de Paris, la nouvelle vague, le Belmondo de Jean Seberg, c'était presque le rêve. Donc j'en ai profité.
Et les comédiens avec vous étaient... volontaires.
Ils étaient très sympathiques. Ils étaient débutants aussi à l'époque. Belmondo de Jean Seberg, enfin Belmondo pour la France, Jean Seberg avait déjà tourné en Amérique, mais elle était complètement attendue en France et donc elle repartait de zéro, et donc ils étaient parfaitement coopératifs, gentils. Ils sont devenus d'ailleurs des amis personnels très longtemps.
Et par exemple, le film de Truffaut,
Je l'égime, oui.
La magnifique photo sur le pont.
Oh, mais ça, c'est une photo de parmi un millier d'autres que j'ai prise sur ce film, mais les circonstances ont voulu qu'elle devienne symbolique. Quand je tournais donc les scènes de Julie Jim, où il y avait des courses sur le pont de chemin de fer de la banlieue sud de Paris, je travaillais avec un Rolleiflex, et le Rolleiflex me permet de faire qu'une photo à la fois. Il n'y avait pas de moteur à l'époque. Et donc, il fallait choisir la photo la plus spectaculaire d'un moment de la course. À chaque course, je faisais une photo de ce qui me semblait être l'arrivée. Et quand il y a eu 4 ou 5 prises, il y a eu donc 4 ou 5 photos différentes qui sont toutes bonnes, mais toutes complètement différentes les unes des autres. Et leur comparaison est assez savoureuse.
On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est séparé, puis on s'est réchauffé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras.
C'est la fameuse photo où on voit Jeanne Moreau entourée de ses deux amoureux. Enfin, elle court, quoi, courent tous les trois.
Oui. Mais il y en a plusieurs comme ça, et c'est difficile de faire le choix.
Et vous les avez bien fatigués, ces trois-là, ces trois acteurs.
Ah ben, ils ne travaillaient pas pour moi, ils travaillaient pour la caméra, ils ne savaient même pas du tout qu'il y avait un photographe à cet endroit-là. Et pourtant, maintenant, ce qui reste sont les photos, et même quand le film a disparu, du moins, n'est pas projeté. C'est ça qui est surprenant et réconfortant pour moi.
Étiez-vous directif quand vous preniez des photos de ces jeunes comédiens à l'époque?
Jamais. Il ne fallait pas que je sois directif, parce que le directeur, c'est quand même le réalisateur. Ce que je pouvais demander, c'est de restituer l'esprit du film plutôt qu'une photo de reportage banale. Et c'était ça, surtout reconstituer l'esprit du film par une scène qui était jouée, donc, mais qui était dans l'esprit du film de Julie Gilles, donc, en l'occurrence d'un bout de souffle. Et c'était ça qui était intéressant. Et grâce aux comédiens qui étaient exceptionnels, ça reste encore.
Dans l'exposition à Vannes, j'ai vu une photo de Jean-Pierre Léo. Jean-Pierre Léo qui, par ailleurs, est photographié aujourd'hui par d'autres photographes.
Mais c'était un gamin à l'époque. C'était pas encore Jean-Pierre Léo. C'était un jeune garçon qui faisait ce que Truffaut lui demandait de faire et qui était persuadé qu'il n'y arriverait pas et que sa carrière s'arrêterait à la fin des essais. Il a prouvé le contraire.
Étiez-vous rapide dans vos prises de vue? Vous fallait-il du temps pour réfléchir à une mise en scène avec les comédiens?
Alors, le photographe n'avait absolument aucune initiative dans la prise de vue. Je photographiais ce qui était décidé par le réalisateur ou par la préparation. Et d'ailleurs, il fallait que je me regarde d'avoir la moindre initiative parce que je déformais tout ce qui était l'esprit du film en ajoutant mon grain de sel personnel et ce n'est pas l'objet de mon travail. Donc, il fallait que je sois transparent. Je crois l'avoir été parce que personne ne se souvient de moi.
La preuve que non, on se souvient de vous.
Sur le plateau, je veux dire.
Ah, oui.
Ce n'est pas mon point de vue qui compte, mais celui du réalisateur ou du chef opérateur qui a une place beaucoup plus importante qu'on ne croit dans le tournage d'un film. Je trouve qu'il est l'auteur au moins à 50% de la réussite d'un film, tout autant que le réalisateur qui en récolte seul les lauriers. Et c'est quelquefois un peu dommage.
Marlon Williams, c'est sa voix de crooner, avant de retrouver cet homme qui a photographié les jeunes futures stars de la nouvelle vague. Raymond Cochetier, parmi toutes les photos que nous voyons aujourd'hui de vous, elles sont absolument magnifiques, elles sont iconiques, mais s'il y en avait une seule pour vous à citer, à retenir, une photo dont vous êtes particulièrement fier, ce serait laquelle?
Il se trouve que c'est celle qui a été choisie pour le festival. C'est la photo de deux chevaux où s'entassait toute l'équipe du film Adieu Philippines, que nous avons tourné en Corse, et qui était tout à fait symbolique de la nouvelle vague. Personne ne savait ce qu'il fallait faire et improvisait un petit peu à chaque instant. Et finalement, le résultat était émouvant, justement parce qu'il était déconcertant et fidèle à l'esprit de la nouvelle vague. Cette, c'est une photo qui était faite dans le port de Calvi, en Corse. C'est-à-dire qu'il y avait une jetée qui s'avançait en mer. La voiture, une de chevaux, avançait sur la jetée et sur une autre voiture, nous suivions la caméra en essayant de photographier ce qui se passait. Et donc, ça donnait cette photo qui était absolument improvisée, qui est devenue finalement une photo culte. Les machinistes dégonflaient les pneus de la deux chevaux où se trouvait la caméra pour que les aspérités du sol ne provoquent pas des chaos. Et donc, il y avait une certaine fluidité de l'image qui était obtenue en dégonflant les pneus. Alors, tout le monde embarquait sur la deux chevaux pour la rendre plus lourde et éviter que la prise de vue subisse les chaos qu'on pouvait rencontrer sur le sol.
Ils sont très nombreux hein, dans cette deux chevaux. Il y en a qui sont accrochés à la portière.
Je crois qu'ils sont une dizaine, là, oui. C'est Jacques Rosier, le réalisateur. Jean-Paul Hennemy était l'acteur principal.
Qui ça?
Jean-Claude Hennemy. Je crois qu'il n'a rien fait après. Là, c'est le premier assistant opérateur. Et Jacques Rosier, bien sûr, qui dirige toute l'opération. Qui donne ses instructions aux gens qui courent sur la jetée, regarde par-ci, regarde par-là, etc. Et c'est comme ça que ça se passait.
Pourquoi, pendant de nombreuses années, nous n'avons pas vraiment vu ces photographies? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on les retrouve, enfin depuis un certain temps? Est-ce que ça veut dire qu'elles ne vous appartenaient pas, qu'elles appartenaient à la production des films ?
Les photos appartiennent aux gens qui les regardent, aux gens qui les choisissent. Et ce n'est pas moi qui choisis une photo décédée à un usage quelconque par les médias. Je fais les photos après. C'est aux autres de s'en servir. Et il faut croire que ça ne les a pas intéressés pendant très longtemps, puisqu'il a fallu 50 ans pour que certaines photos qui étaient pourtant dans les tiroirs de la production, reviennent à la surface et j'en suis heureux et, comment dirais-je, récompensé.
En 1968, c'est-à-dire il y a 50 ans, vous étiez sur le tournage de Baiser volé ?
Oui, effectivement, oui.
Et étiez-vous loin des événements de 68 ? Étiez-vous...
On les vivait, mais je veux dire que avec l'inquiétude permanente que le film s'arrête par la suite des débrayages, des grèves, des moyens de transmission ou des moyens de transport qui étaient, c'était très sportif et on était toujours dans l'inattendu. Mais finalement, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de répercussions sur le tournage qui s'est poursuivi tout à fait normalement.
Une image de Baiser volé, une de vos photographies que vous avez là en tête tout de suite?
Non, papa, il faut. Je sors sur le papier, mais pas dans ma tête.
Eh bien, écoutez, c'est une femme superbe, avec un air très doux et très vague.
Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous voyons plus jamais. D'accord?
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baiser volé, rêve mouvant, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
Pourquoi avez-vous arrêté d'être photographe de plateau?
Bien parce qu'il faut des regards différents sur ce qui se passe sur un plateau, et c'est très bien que les producteurs changent de photographe pour avoir justement des photos qui ne se ressemblent pas, parce que finalement, on fait toujours un peu la même photo, avec des personnages et des cadres différents, mais la personnalité d'un photographe se transparaît toujours à travers ces images, et c'est pas bon. Il faut changer de photographe pour avoir des visions différentes. Donc j'ai fait autre chose, et c'était très bien comme ça.
Qu'avez-vous fait?
Oh, j'ai fait du reportage, je suis allé en Extrême-Orient, j'ai photographié les temples dans le corps, le roman photo aussi, mais ça c'était purement alimentaire. Le roman photo était un travail ingrat, mais très bien payé, donc il fallait que, comme il fallait vivre, j'ai passé beaucoup plus de temps à faire du roman photo que de la photo d'archéologie. Et bon, c'était comme ça que ça s'est passé.
Au fur et à mesure des années, avez-vous retrouvé des comédiens avec qui vous avez travaillé jeune, de tous ces films de la Nouvelle Vague?
J'ai rencontré quelquefois Belmondo, qui lui n'a pas changé, toujours aussi sympathique, aussi formidable, enfin. Mais c'est le seul pratiquement que j'ai revu. J'ai fait d'ailleurs les photos de son premier film, À bout de souffle, sur les Champs-Élysées, il s'en souvient aussi. Et nous avons conservé un souvenir ému, tous les deux.
Il y a quelque chose chez vous que j'aime, mais je ne sais pas quoi. Je voudrais qu'on soit Roméo et Juliette.
Oh là là, c'est bien des idées de filles, ça.
Tu vois, tu disais hier soir dans la voiture, tu pouvais pas te passer de moi. Tu peux très bien. Roméo pouvait pas se passer de Juliette, mais toi, tu peux.
Non, je ne peux pas me passer de toi.
Oh là là, ça c'est bien les idées des garçons.
Souris-moi. Bon, je compte jusqu'à 8. Si à 8 tu ne m'as pas souri, je t'étrangle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et demi, 7, 3 quarts. Tu es tellement lâche que je parie que tu vas sourire.
Tous les jours qui apparaissaient sur un plateau de cinéma étaient photogéniques par définition. Donc, je crois qu'ils étaient tous des orfèvres en la matière et particulièrement destinés à mériter leur célébrité.
Et vous, aimez-vous être pris en photo?
Absolument pas. Je suis de l'autre côté de la caméra ou de l'appareil photo et c'est bien comme ça, parce que le contraire sera désastreux.
Je crois que j'ai vu une ou deux photos où on vous voit. Il en existe tout de même des photos où vous apparaissez.
Vous demandez ça aux photographes qui les ont prises, mais pas à moi.
Bon, en tout cas, pendant que je vous parle, votre épouse est en train de nous prendre en photo. Donc vous serez une fois pris en photo, Raymond Cochetier.
Je vous en remercie parce que c'est grâce à vous.
Merci beaucoup, vraiment.
À bientôt.
Et si vous allez sur la page Regardez voir avec Facebook, vous pourrez voir Raymond Cochetier en photo et puis aussi Peter Lindbergh. Vous pouvez aller aussi sur le site raymond-cochetier.com. Il y a une exposition qui s'intitule Exposition icônes de la nouvelle vague aux années 70. Ce sont des photos de Georges Pierre et Raymond Cochetier. C'est à Paris jusqu'au 20 septembre à la Galerie Joseph. Il y a aussi un livre, Photos de cinéma autour de la nouvelle vague 1958-1968 avec des textes de Marc Vernet. C'est disponible aux éditions Images France. Pour Peter Lindbergh, sachez que l'extrait de film que vous avez entendu avec la voix de Jeanne Moreau s'appelle Everywhere at Once. Il est sorti en 2008. Il est réalisé par Peter Lindbergh et Holly Fisher. Peter Lindbergh a évidemment aussi un site, peterlindbergh.com, et puis des livres à vous conseiller. Peter Lindbergh, une vision différente de la photographie de mode aux éditions Ta Chaîne. Puis il y a d'autres livres, par exemple des portraits de comédiennes qui s'appellent Shadows on the Wall aux éditions Ta Chaîne aussi. Regardez voir est réalisé par Marie-Hélène Fauquet avec Perrine Malinge à la technique Antoine Gomez. La programmation musicale est faite par Thierry Dupin. Vous pouvez aller voir toutes les infos sur la page Regardez voir avec franceinter.fr, les infos et le podcast. Je vous donne rendez-vous samedi prochain avec deux photographes de l'agence Myop, Alain Keller et Julien Pébrel. Et puis juste après les informations, vous avez rendez-vous avec la série des médias francophones publics, Jacques Higelin. Bon après-midi avec France Inter.